Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes. On a le plaisir aujourd'hui de pouvoir présenter les quarts de finale qui commencent demain pour s'étendre jusqu'à samedi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir également d'accueillir Michael Hoy et on laisse le soin à Jérôme Moutet de faire les présentations.
Michael Hoy, vous êtes né à Strasbourg le 19 septembre 1970, la même année que voyaient le jour Lara Fabian, Maria Carré ou Claudia Schiffer, bref, que des bombasses, ce qui n'est pas étonnant, car vous n'êtes pas mal non plus. Oui, Michael, car je suis tombé sur une photo d'équipe qui date de votre époque du FC Metz, et franchement, quel beau gosse! Votre très belle carrière de footballeur et de milieu de terrain vous fait passer par l'ISR de Léman, notamment lors de la saison 98-99, accédant à la Ligue Nationale A de l'époque. Oui, les SRD ont été en Liga, quand le kilo de pain coûtait 80 centimes, mais c'est arrivé. Vous êtes aussi passé par Lugano, Neuchâtel-Xamax ou le FC Bienne. Mais auparavant, vous avez notamment porté les couleurs de Mulhouse, Metz et Amiens en France, jouant 5 matchs de première division. Dans le détail, par exemple, entre 92 et 94, vous jouez 39 matchs avec Mulhouse pour 6 buts. En 2000, à Xamax, vous jouez 12 matchs pour 4 buts. Ou encore à Lugano pour 33 matchs et 5 buts. En tant qu'entraîneur, vous avez quand même pas mal parcouru la région, du FC Tavannes-Tramelan au FC Halle en passant par le FC Basse-Cour où vous serez remplacé par Francis Rebeté à l'époque. Les SR de Léman viennent vous chercher aussi en 2016 pour succéder à Loulzi Mouchi à la tête de sa première équipe alors que vous étiez au FC Bévillard-Malrais en 3ème ligue. Suite à cet engagement, le merveilleux directoire des Jaunes et Noirs précise sa vision à moyen terme pour le club, je cite un article de l'époque, s'installer durablement en Promotion League. Je vous rappelle que les SRD végètent en première ligue et que tous leurs objectifs depuis ce temps-là ont totalement foiré. Mais vous, vous n'y pouvez rien car comme on dit, quand on part avec handicap, c'est difficile de finir devant. Du coup, les mêmes dirigeants qui avaient prévu cela avec vous, quelques mois plus tard, changent d'entraîneur et vous partez donc de la capitale jurassienne. Mais Michael Hoy, il y a un passage dans votre carrière d'entraîneur que même les plus grands psychologues du sport ont du mal à expliquer. Un peu comme tous les phénomènes inexplicables qui arrivent parfois sur Terre. Ça arrive, mais personne ne sait pourquoi. En effet, le journaliste qui va vous poser des questions dans quelques secondes se nomme Michel Léoni. Michel joue au FC Glovelier, un club du Jura, et un jour, vous, oui vous, Michael Hoy, vous prenez une décision qui va changer votre avenir à jamais. Vous allez entraîner le FC Glovelier. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là, Michael? Vous qui avez joué 5 matchs de Division 1, vous qui avez fait monter les SRD en Liga, mais pourquoi aller entraîner le FC Glovelier? En plus, avec Michel Léoni dans leur rang, Michel surnommé Serpe d'Or sur un terrain. D'ailleurs, un tibia cassé d'un adversaire s'en souvient encore sur le stade du Gore, stade d'un petit club jurassien du haut du Valterbi, où ce jour-là, un joueur du Cru a perdu sa jambe sous les crampons de Michel Léoni. On pense à lui. Michael Hoy, on se souviendra de vous comme étant un entraîneur qui aime bien voyager et qui n'a pas encore trouvé sa véritable place. Mais on se souviendra surtout de vous, balle au pied, un régal et une pureté technique bien trop rare sur nos terrains actuellement. Et pour tout cela, Michael, on vous dit bravo et merci.
Et voilà, Michael Hoy, on en prend pour notre grade. Hein, votre réaction après ce portrait, Michael Hoy.
Oh ben c'est très flatteur, merci beaucoup. Mais bon, en même temps, je suis allé au FC Glovelier à cause de Serpe d'Or, c'est pour ça.
Ah voilà, du coup vous n'avez pas été trop traumatisé par vos passages dans la région?
Non, pas du tout. Moi je me souviens d'un joueur longiligne avec beaucoup d'élégance et beaucoup de technicité. Toujours le souci de bien relancer, ça j'adore.
Alors on verra si les équipes dont on parle ont également cette qualité. On va bien sûr avec vous, Michael Hoy, revenir sur les quarts de finale hein, qui se profilent désormais avec le premier match demain à 16h. On est à l'aube donc des moments très importants de cette Coupe du Monde. Est-ce que, qui est votre favori désormais avec les 8 équipes qui restent? On a des styles complètement différents. Si vous deviez dégager une seule équipe, ce serait laquelle?
Ben, je vais être chauvin, je vais dire les Français. Voilà. Bon, par rapport à leur parcours, je trouve qu'il est tout à fait honorable. Comme vous le savez, une équipe qui est ambitieuse, qui va aller loin dans un tournoi, mais obligée de faire une préparation adéquate. Et forcément, les premiers matchs étaient des matchs, où justement ils montaient petit à petit en puissance. Puis on a vu contre l'Argentine, c'était assez intéressant. Maintenant, l'Uruguay, c'est un autre morceau, quoi.
Ça tombe bien, Michael Hoy, puisqu'on va commencer dans l'ordre, un crescendo. Le match de demain à 16h va mettre aux prises la France et l'Uruguay. D'après vous, est-ce que la destinée de l'Uruguay, elle est liée directement à son buteur Edinson Cavani et sa participation ou non à cette rencontre?
Oui et non, parce qu'il y a l'effet inverse aussi du fait peut-être de son absence. logiquement, il devrait être absent, selon les dires de certains journalistes. C'est clair que c'est un joueur qui a une grande importance dans le collectif de l'Uruguay. Maintenant, du fait qu'il soit absent, qu'il ait peut-être une possibilité de pouvoir jouer une demi-finale, voire une finale, bah peut-être ses compatriotes vont tout faire pour justement lui permettre de jouer le prochain match aux Français, de contredire les plans de l'Uruguay, tout simplement. Voilà.
Cavani qui pourrait être absent demain du côté de la Céleste. Côté français, il y a une certitude, hein, c'est que Blaise Matuidi ne pourra pas jouer puisqu'il est suspendu. Ça, c'est un coup dur pour les Bleus.
Oui et non, je pense que Didier Deschamps a un équilibre vraiment très très intéressant au niveau de son effectif. Donc forcément, il aura sûrement un Tolisso, voire d'autres joueurs qui pourront le supplier.
Tolisso, pour vous, c'est le favori pour remplacer Matuidi. Ce serait la bonne pioche, le bon joueur au bon endroit.
Oh, il y a Neymar, il y a 2-3 bons joueurs, bien sûr. Oui, mais franchement, il y a une sélection, comme je vous l'ai dit, qui est très homogène, avec beaucoup de complémentarité. Donc, ça va être un match très difficile. Mais de toute façon, M. Deschamps fera sûrement la bonne composition pour nous emmener au plus haut.
Match compliqué, match serré, comme beaucoup l'imaginent, effectivement. Ou dans quel registre est-ce que ça va se jouer, d'après vous?
Alors, connaissant un petit peu les Uruguayens, ce sont des guerriers, c'est des combattants, c'est un système défensif très bien léché avec, à mon avis, un des meilleurs défenseurs centrales au monde, qui est Godin. Avec Jiménez, c'est une belle paire. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de les faire dézonner, je ne sais pas, mettre un attaquant un peu plus vif, ou alors faire dézonner Giroud, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont évoluer, mais en tout cas, ça risque d'être intéressant, ça va être un beau combat. Pour justement peut-être avoir un match intéressant, il faudrait peut-être que l'une ou l'autre équipe, de préférence la France qui marque en premier, parce que si les Uruguayens devaient marquer rapidement, je pense qu'après, ils vont se battre sur chaque ballon comme des morts de faim, et ils ont un Suarez qui est un attaquant de classe mondiale. Donc, et le suppléant de Cavani va sûrement vouloir prouver qu'il existe aussi, qu'il a de grandes qualités pour essayer d'amener cette équipe au plus haut, quoi.
Vous l'avez dit, il y a une paire défensive de grande qualité, hein, en Uruguay, Jiménez, Godin, deux joueurs qui jouent depuis 5 ans maintenant ensemble à l'Atlético. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire déjouer cette paire qui se connaît par cœur et qui est redoutable?
Alors, à mon humble avis, moi, je ne vis pas avec le groupe France. Didier Deschamps, chaque jour vit et puis ressent son groupe. Peut-être, mais je ne pense pas, connaissant un petit peu sa manière de fonctionner, je ne pense pas qu'il va changer grand-chose au niveau de sa composition d'équipe, à part Matuidi qui est suspendu. Mais peut-être, comme je vous ai dit, il va peut-être essayer de mettre de la vitesse dans l'axe pour justement embêter ses joueurs et les faire dézonner. Parce que Giroud, bien sûr, il a des caractéristiques assez intéressantes, mais il a un peu le même profil que ces deux défenseurs, donc peut-être mettre de la vitesse dans l'axe, je ne sais pas. Après, peut-être Giroud fera un match exceptionnel, et puis je ne peux pas vous dire, mais peut-être essayer d'aller provoquer ces défenseurs centraux, balle au pied, de les faire dézonner pour justement plonger derrière dans les espaces, dans l'axe, quoi. Alors ça paraît paradoxal parce que souvent on dit de passer par les côtés, mais l'Uruguay c'est vraiment très très costaud défensivement. Et puis c'est une petite nation de football au niveau des habitants, on va dire, mais au niveau de la qualité, ils sont vraiment très très forts. Et c'est une équipe qui est difficile à jouer, c'est comme la Suède, les Danois, c'est des équipes qui font déjouer leur adversaire. Donc c'est très compliqué de jouer contre ce genre d'équipe.
On va se pencher désormais sur le deuxième match de demain à 20h, hein, ce gros choc entre le Brésil et la Belgique. Est-ce qu'on doit s'attendre à un festival offensif entre les deux équipes, d'après vous?
Alors sincèrement, je pense que là, on risque d'avoir un match beaucoup plus ouvert parce que elles ont un peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des individualités qui savent très très bien manier le ballon, où il y a des mouvements offensifs vraiment très intéressants. Je pense au troisième but de la Belgique, notamment face au Japon, où là il y a eu de tout, quoi, au niveau de la contre-attaque, des mouvements extraordinaires. Les Brésiliens, on n'a même plus besoin de les présenter parce qu'ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils ont aussi un effectif très très complet. Sincèrement, le Brésil, la France et les Belges, ma foi, ou peut-être d'autres, mais ils me paraissent bien armés. Forcément, la Belgique ou le Brésil, il y en aura une qui passera la trappe, mais un de ces trois-là, je vois bien de ces trois-là remporter la Coupe du Monde, en priorité les Français, parce que j'ai l'impression que l'équilibre avec la jeunesse et avec une certaine expérience par le biais de certains joueurs, ben, ils ont beaucoup de possibilités, quoi.
Dans le duel entre la Belgique et le Brésil, il y aura une grosse opposition tactique. Hein. Il y a le 4-3-3 brésilien, très offensif d'un côté. Il y a le 3-4-3 ou 3-4-2-1, c'est selon Belge de l'autre côté, également plutôt offensif. Ça va être dur quand même quand on voit ça pour les Diables Rouges de bloquer ces couloirs où on l'a dit, on a des joueurs comme Neymar, comme Willian et des latéraux régulièrement très offensifs.
Effectivement, vous avez tout à fait raison. Avec de tels joueurs, une telle armada offensive au niveau du Brésil, ça va être compliqué pour les Belges. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce sera un match très ouvert, parce que les Belges, même si, sans vouloir manquer de respect, ils sont très forts défensivement aussi, mais je vois le Brésil très costaud défensivement. Donc, pour mettre un peu en difficulté cette équipe, il me semble, mais bon, après, moi, je suis pas entraîneur de la Belgique, mais ils sont obligés de les faire déjouer, c'est-à-dire d'essayer d'attaquer un maximum pour faire justement défendre ces Brésiliens. Et on sait que des joueurs comme Neymar ou sur les côtés défendent un peu moins, même s'ils font l'effort par moment. Donc, peut-être vraiment axer le match, essayer de les prendre haut, même si c'est compliqué. Parce que ben, si on prive les Brésiliens de ballon, ben, forcément, on a plus de chances peut-être de faire un résultat, quoi.
On a encore rapidement le temps de revenir sur le bas du tableau, cette fois des matchs qui se dérouleront samedi. Il y a deux affiches, hein, Angleterre-Suède, Russie-Croatie. Et la première, donc Angleterre-Suède. C'est la question de notre sondage sur Facebook d'ailleurs. Est-ce que d'après vous, l'Angleterre est armée pour soulever le trophée?
Je ne pense pas. Mais bon, ma foi, ils ont montré quelques faiblesses quand même. Je les vois pas aller au bout, mais bon, sur maintenant, ben, face aux Suédois, qui à mon avis, la Suède est une très très bonne équipe. On a pu le voir malheureusement face aux Suisses. Ils ont su faire déjouer les Suisses. Encore une fois, c'était pas un match facile. Et puis, ils me semblent très très bien armés, les Suédois, pour battre l'Angleterre. Mais encore une fois, l'Angleterre a un attaquant de classe mondiale. Donc peut-être qu'il arrivera à faire la différence par le biais de son jeu de tête ou autre. C'est vrai. Ils ont un bon équilibre, mais je les vois pas aller au bout. Pas encore, en tout cas.
Pour vous, l'organisation suédoise, elle a mis à mal l'équipe de Suisse, elle a mis à mal également d'autres équipes en phase de groupe. Elle pourrait également mener la vie dure à des joueurs comme Kane, comme Sterling, comme Dele Alli, finalement un collectif bien huilé tel qu'il l'est en Angleterre.
Exactement, parce que ben, les Suédois, comme vous le savez, ils ont éliminé les Italiens, ils ont battu les Français. Pour moi, la Suisse a mieux joué que les Suédois, mais malheureusement, c'est vrai, les Suédois ont été regroupés dans leur camp et puis ils ont déjoué donc les Suisses. Moi, je suis persuadé qu'ils vont faire déjouer aussi l'Angleterre parce qu'ils ont un peu le même profil au niveau des gabarits, ils sont très bons au niveau du jeu de tête, dans les duels, ils lâchent rien. Et puis, ils me paraissent très bien préparés physiquement, donc, bien que les Anglais aussi, mais je ne sais pas, je les vois beaucoup plus costés défensivement que les Anglais, mais tout d'un coup, ce sera tout le contraire. Mais voilà, moi, je crois plus aux Suédois qu'aux Anglais sur ce quart de finale, mais après, chacun est libre de penser.
Ouais, donc une petite surprise dès samedi hein, dans ce quart de finale. On va se pencher maintenant sur le dernier quart de finale qui a lieu samedi également à 20h. Ce sera le duel entre la Russie et la Croatie. Alors s'il y en a bien une équipe qu'on ne voyait pas forcément là, c'est l'équipe de Russie. Est-ce qu'elle peut continuer, entre guillemets comme ça, à compenser ses lacunes techniques par rapport à la Croatie, hein, par la ferveur populaire de ce rendez-vous et tout ce que ça amène?
Alors, le gros avantage, c'est de jouer à domicile. Forcément, il y aura tout un stade qui sera derrière son équipe. Il y a une grosse pression, même si le sélectionneur a déjà réussi son parcours, son pari de les emmener jusqu'en quart de finale. Moi, je pense sincèrement que la Russie sera peut-être l'équipe surprise que personne n'attendait, même si les Croates sont très très forts avec de très grandes individualités. On a pu voir aussi, encore une fois, que contre les Danois, les Danois les ont fait déjouer également. Donc, on a vu que les Français avaient beaucoup de mal à jouer le Danemark. Les Croates ont eu beaucoup de mal aussi à jouer le Danemark. Donc les Russes, ils n'ont rien à perdre finalement, parce que personne ne les attendait à ce niveau de la compétition. Encore une fois, intrinsèquement, les Croates sont techniquement et voire tactiquement mieux armés. Maintenant, je pense que si toutefois la Croatie, je ne connais pas suffisamment le banc croate, etc. Mais si toutefois il devait avoir une certaine fatigue, est-ce que des remplaçants sont capables de suppléer très très bien les titulaires? Je ne sais pas. Les Russes, ils arrivent peut-être au bout aussi physiquement, mais il y a tout un peuple derrière. Donc ça, il faut vraiment se méfier. Moi, si j'ai une surprise là, sur ces quarts de finale, je dirais la Russie. Mais bon, encore une fois, les Croates sont supérieurs. Mais j'ai envie de croire en une surprise et je la vois plutôt de ce côté-là. Je ne vais pas me faire des potes des côtés des Croates.
Eh bien, on sera fixé, Mickaël.
Ça reste une très, très bonne équipe.
On sera fixé voilà. Comme ça d'ici quelques heures. Déjà maintenant, voilà. Les premiers quarts de finale, c'est demain. Les deux deuxièmes quarts de finale, ça se passera samedi. Mickaël Hoy, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission Les Tsars du Ballon
Rond.
Et on vous souhaite évidemment une très belle fin de semaine, une très belle fin de Coupe du Monde aussi.
À vous aussi, beaucoup de plaisir encore à suivre tous ces matchs. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Les Tsars du Ballon Rond. Le quart d'heure des spécialistes.